understand. Now I see your wicked plan. I'm a jungleistic man.
Je suis 94.5 Radio Panel. Émission Congo Nabisso. On a commencé Mbrousseau, maxi single nouveauté sur le marché. Le président Jossar Nyoka Longo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de vous brancher sur les 105.4 FM. Merci de vous brancher sur le www.radiopanique.org. Après l'interlude musical, nous allons écouter que le docteur Loseke nous a accordé après son séjour à Nairobi. Bonsoir du côté ouest, tout est calme, c'est Olivier Kouladzi. Allez, cela est donné. Tuna.
Alain Boïka, bombastique na télé. Toujours sur la base.
Voilà,
on s'y le sait.
le docteur Lossi.
Les élégants, François Katendi, Roger Africain, Jeannot Binalou, Mona Mama Pouya, Maître Marco Di Maggio, Lumumba, Marcelin Chissambo.
Dans la radio.
Bako sala nyoso pamba mela Motema nanga ekomi nde yansai Bako luka nyoso kaka pamba mela Ngana ningi yo mela Ngana poni yo mela Ah mela nangai Bako sala nyoso kaka sa
Batajan nyoso asti bepa nosa nzwa mkuse Solo pe naka
Ngai
ningi yo mela naka
Somba yona ba minyomela Bako sala nyoso kaka pamba Ngana yo toko bala na mela Ngana yo pete na mosapi mela
Un grand coucou oh, la reine de son roi
oh, mela.
Régine Tumba
mela.
Bola Dinga
mela Mela Olingo yanga na yo ebe misimoka Banguya bakole lango pona nsoni Olingo yanga na yo ekotina nakati Papa bandiminga na yo tobala na mela 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 Bakosala nyoso pamba
Na pasia motema batomo susu na sima. Gaina kufa na beba na limwa na tike la yo mokili. Kope tatolo ya botutulo leno tiba kufe la yo. Na kobo mazoto teo
quelques minutes, quelques secondes, quand on traitait avec le docteur de bien sûr, de 105.4 FM. Vous êtes bien sûr le 105.4 FM Radio Panique, émission Congo Nabisso. Notre invité est le docteur Loseke. Avec lui, on va parler de l'actualité qui s'est passée du 14 au 15 octobre à Nairobi. C'est là où était focalisée l'actualité pour la République démocratique du Congo. On va lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'ils sont, ils sont arrivés là et comment est-ce qu'ils ont été contactés? Docteur Loseke, bonjour.
Bonjour Papa Jules, bonjour à tous les auditeurs de Radio Panique.
Docteur Loseke, comment est-ce que vous êtes arrivé à Nairobi?
D'abord, merci pour l'invitation. Ça me permet de faire la restitution du conclave des forces politiques et sociales qui se sont réunis à Nairobi du 14 au 15 octobre de cette année-ci. Vous me demandez comment nous sommes arrivés là. En fait, avant que je ne parle de moi personnellement, je voudrais vous dire avec précision que ce sont les forces politiques et sociales de la RDC qui sont opposées au pouvoir actuel de Kinshasa, qui se sont réunies à Nairobi pour analyser la situation de notre pays, la situation générale de la RDC et ensuite faire l'évaluation de la nécessité de se rassembler pour conjuguer nos efforts dans le cadre de la résolution de la crise multiforme qui sévit dans notre pays.
Mais pour beaucoup, on a parlé de l'initiative de l'ex-président Joseph Kabila. C'est lui qui vous a rassemblé, c'est lui qui vous a invité. Certains ont dit même c'est son enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça?
Non, je voudrais vous dire qu'il y avait une nécessité absolue que certaines forces politiques et sociales qui ne partagent pas la gouvernance actuelle du pays, du pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il était nécessaire que ces forces se réunissent rapidement quelque part, que ce soit au pays ou à l'extérieur, pour justement les raisons que je viens de vous citer. Il était alors nécessaire que nous trouvions quelqu'un qui avait l'autorité nécessaire pour nous rassembler. Et c'est ainsi que nous avions sollicité, beaucoup d'entre nous ont sollicité le président honoraire Joseph Kabila Kabange qui nous réunisse quelque part pour réfléchir sur la situation du pays qui est très préoccupante.
Mais d'autres ont parlé que beaucoup ont été rémunérés, on parle même de 50 000 $, le moins a reçu 10 000 $. Vous, docteur, vous avez reçu combien?
Non, tout ça, c'est de la foutaise. Ce sont des mensonges. Nous sommes allés puisque nous aimons notre pays et ce pays est en déperdition de par la gouvernance actuelle qui entraîne beaucoup de problèmes, notamment les différents conflits dont vous avez déjà entendu parler à l'est, à l'ouest et un peu partout dans le Congo. Et puis la population vit dans une misère insoutenable. Donc il était question que chacun fasse un effort personnel, de se rendre à Nairobi pour participer à ces conclaves de réflexion profonde pour notre pays.
Mais il y a eu quelqu'un qui a quand même payé la facture.
Bon, peut-être à manger, oui, mais chacun a pris à charge son billet et son séjour. Chacun s'est débrouillé. Je crois qu'il n'y a pas eu de rétribution ou quoi que ce soit. Nous y sommes allés puisque nous aimons notre pays et nous avons partagé nos réflexions à partir desquelles nous avons produit une déclaration finale avec beaucoup de points précis et ensuite nous avons mis en place cette nouvelle plateforme sauvant la RDC pour pouvoir aller vers l'avant et surtout sauver notre pays et aller nous projeter dans l'avenir.
Et quelle est la nature et l'objectif du conclave?
Mais je viens de vous dire, Papa Jules,
oui.
L'objectif c'était l'analyse minutieuse de la situation générale du pays,
oui.
Dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Ensuite, évaluer la nécessité de nous rassembler pour conjuguer nos efforts dans le cadre de la résolution de la crise multiforme qui sévit dans notre pays.
Quand certains disent que c'était un endroit, c'était un moment où on a consacré le leadership de Joseph Kabila, qu'est-ce que vous en dites?
Non, cela est une conséquence logique de nos réflexions.
Oui.
Parce que quelque part, il fallait qu'on se mette ensemble. Et en se mettant ensemble, nous avons créé la plateforme dont je viens de parler, souvent la RDC. Et pour diriger cette plateforme, nous n'avons pas beaucoup réfléchi pour désigner le président honoré, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour être notre leader et assumer les responsabilités jusqu'à l'ouverture de cette plateforme pour nous diriger, jusqu'à ce que nous puissions faire aboutir nos résolutions.
Mais quand on prend le même et on recommence, il a fait 18 ans au pouvoir, vous le prenez lui et vous le mettez comme président de cette plateforme, est-ce que ça ne fait pas trop par rapport à ça?
Non, pas du tout. Et il est encore en forme, il a encore les idées. Je ne sais pas si vous avez suivi son discours du 23 mai 2025, où il nous a donné 12 priorités pour sauver la RDC. C'est après avoir consulté les chefs d'État, les anciens, ceux qui sont en place de l'Afrique, que ce soit l'Afrique australe, l'Afrique occidentale et les différents pays partenaires à l'extérieur. Que c'est à la suite de ça que nous avons estimé que lui, il a réfléchi par rapport à l'avenir de ce pays, puisqu'il a pris le temps de le faire et de consulter tout le monde en dehors du pays et à l'intérieur du pays. Et nous, logiquement, nous n'avons pas d'autre raison que de le désigner comme notre leader pour nous diriger dans cette plateforme qui va réellement sauver notre pays.
Mais docteur, c'est quelqu'un qui a fait 18 ans quand même au pouvoir. Il n'y avait pas d'autres personnes, il n'y avait pas d'autres personnalités?
Non, c'est notre façon assez étriquée de voir les choses dans notre pays. Moi, je pense que le président honoraire sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a encore toutes les ressources nécessaires pour conduire ce pays, après tout ce que nous connaissons maintenant, après les 7 ans de pouvoir de Félix Tshisekedi.
Mais vous ne voulez plus du président actuel. mais il est quand même légitime, il a été élu.
Personne ne vous a dit que nous ne voulons pas de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, personne n'a dit ça et vous pouvez lire dans toutes nos déclarations et résolutions, vous verrez que nous lui demandons seulement d'assurer une bonne gouvernance dans ce pays. Mais seulement, il y a des dérives dictatoriales et nous dirons même la tyrannie qui font que tout ça réduit son pouvoir à un pouvoir qui n'est pas destiné au peuple congolais. Et le bonheur du peuple congolais est jeté au calende grec et il n'y a rien de bon qui se fait actuellement au pays. Le pays va très mal avec la gouvernance de Félix Tshisekedi.
Et pourquoi ne pas lui laisser le temps de faire son mandat jusqu'à la fin?
Vous savez, tout le monde dit ça. Mais c'est à lui de faire assez qu'on le laisse aller jusqu'à la fin de son mandat. Et personne n'a l'intention d'écourter son mandat. Mais sa posture et ses attitudes font que il ne rassure pas pour que ce mandat aille jusqu'au bout. La crise est tellement profonde, tellement multiforme que il faut absolument qu'on se mette autour d'une table et surtout examiner sans tabou toutes les facettes de la crise pour que les résolutions que nous allons prendre au cours de ce dialogue soient opposables à tout le monde.
Quand on vous qualifie, vous, entre guillemets, d'une plateforme soutenue par l'étranger, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Non, ça c'est tout à fait de la foutaise, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes des Congolais, des patriotes, et nous réfléchissons pour l'avenir de notre pays. Nous aimons ce pays, il faut qu'on sauve le pays qui est menacé de balkanisation, qui est menacé de perte et de perdition, puisque le peuple congolais vit très mal. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde avec toutes nos richesses. Il y a beaucoup de choses dans cette crise et je pense qu'il était temps que certains patriotes se mettent ensemble pour réfléchir sur l'avenir de ce pays.
Mais on dit à aucun moment vous n'avez, entre guillemets, critiqué la présence du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo, la présence de troupes rwandaises, vous n'avez jamais critiqué ça.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire la déclaration de Washington, ou l'accord, ce qu'on appelle pudiquement l'accord de Washington. Là-dedans, monsieur ou madame Thérèse Kayikwamba, qui a signé pour la République démocratique du Congo, n'a soulevé le problème ni d'agression, ni de force d'agression à l'endroit de la RDC. À la limite, pour les Rwandais, ils ont dit que ce sont les forces de défense qui sont là pour contrer les FDLR. Et pour ce qui est de l'agression, si vous faites allusion au M23 et avec l'AFC, ce sont des compatriotes congolais qui sont membres de ces deux composantes-là. Donc, c'est une coalition de Congolais. Et ils donnent les raisons qui les ont poussés à prendre des armes. Nous ne sommes pas là, nous sommes une opposition non armée qui lutte pour le changement dans ces pays-là, le changement de manière pacifique, dans le dialogue et dans l'attente cordiale.
Est-ce que vous avez des accointances avec le AFC M23?
Non. À mon avis, non. Puisque nous, vous pouvez lire nos déclarations, vous pouvez vous informer sur les conclaves. Nous n'avons aucun contact, aucun accord avec la FC M23, qui est une structure de libération, comme ils s'appellent eux-mêmes, libérer le Congo de ce qui est de la tyrannie et de ce qui se passe actuellement à Kinshasa.
Beaucoup diront qu'il y a un trait d'union, il y a un trait d'union qui est Joseph Kabila entre sauvons la RDC et les AFC M23.
C'est vous qui le dites, moi je n'ai pas de preuves et nous, personne qui a été à Nairobi peut vous dire que nous y avons même pensé. On n'y a même pas pensé.
Mais il a séjourné dans la partie qu'occupe l'AFC M23. Il a séjourné là-bas, il a discuté avec eux.
Voilà.
Ouais.
Le président Kabila s'est rendu à l'est de la République, puisqu'il ne peut pas venir à l'ouest. Vous savez qu'on l'a condamné à mort, mais il était déjà menacé depuis longtemps. Et toutes ses résidences et partout s'étaient occupées. Or, lui, il s'est dit patriote congolais, il devait regagner ce pays. Donc, dans un premier temps, il a regagné le pays par l'est. Il n'est pas exclu qu'il regagne le pays par l'ouest aussi. Donc, il ne faut pas dire qu'il est allé de manière préférentielle du côté où se trouvent les rebelles, ou ce qu'on appelle les rebelles, mais eux, ils s'appellent des libérateurs. Des libérateurs, c'est-à-dire des gens qui viennent sauver le peuple qui est en souffrance. Donc, je ne vois pas personnellement aucune relation qui est fondée entre la présence de monsieur le président Joseph Kabila Kabange à l'est, c'est-à-dire à Goma et à Bukavu, et la présence de la rébellion. Il est tout à fait normal que quand vous êtes quelque part, vous allez faire des civilités aux autorités de la place. Et là, malheureusement, c'est ceux qui ont pris les armes, qui s'appellent les libérateurs, et qui gère cette partie-là, on ne peut pas s'en cacher, et lui n'avait pas d'autre choix que les voix. Mais vous avez constaté aussi qu'il a privilégié la consultation avec la population, les différentes catégories socio-économico-sociales de la région qui est déjà actuellement occupé par les libérateurs, comme ils s'appellent, et qui sont la coalition, qui est la coalition AFC M23.
Là, vous dites qu'il peut aussi rentrer par l'Ouest. Qu'est-ce que vous sous-entendez par ça, par là?
Ah, il pouvait venir, ouais. Maintenant, comme il est condamné à mort, je crois qu'il hésitera à le faire. Lui-même, d'après ce que je sais, il pensait venir. S'il n'y a pas eu une espèce de chasse à l'homme à son endroit, il serait venu même par l'ouest.
Docteur, en vous écoutant, vous faites, entre guillemets, l'avocat de M. Joseph Kabila. On a connu Docteur Loseke avec M. Léon Kengouadondo, on l'a connu à l'UDPS, et on l'a connu à l'UDPS Tshibala. Maintenant, on l'entend comme étant l'avocat de monsieur de...
Ah. Oui, je vous attends.
Oui, moi je n'ai plus de retour.
Ah, non, pardon. Non, je suis là.
Maintenant, vous devenez l'avocat de M. Joseph Kabila.
Non, je ne suis l'avocat de personne, c'est une caricature.
Oui.
J'ai une trajectoire politique qui est constante et dynamique. Mon objectif, moi qui suis de la société civile et qui suis parmi les fondateurs de la société civile du Congo, je suis entré en politique par la volonté de mon mentor d'heureuse mémoire qui est le président Étienne Tshisekedi wa Mulumba.
Mais aujourd'hui, vous êtes éloigné de son fils.
Non, son fils s'est éloigné de la doctrine de son père. Donc, il faut pas faire la confusion. Je peux vous le démontrer.
Comment ça? Démontrez-moi. Comment ça?
Vous savez que nous étions tous avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
ouais,
au congrès, au premier congrès de l'UDPS en 2010.
Oui.
Au cours de ce congrès, qui avait comme objectif la désignation du candidat président, à l'élection présidentielle de 2011, mais nous avons aussi travaillé sur le projet de société de l'UDPS, le projet intitulé « Le peuple d'abord ». C'est un projet de société, la vision d'Étienne Tshisekedi.
D'autres disent c'est un slogan.
Non, ce n'est pas un slogan. Je peux vous démontrer ici que c'est un projet de société.
Oui.
Ceux qui disent comme que c'est un slogan ne connaissent rien de l'UDPS. Et même les gens qui adhèrent par opportunisme maintenant à l'UDPS ne connaissent rien de ce projet de société. Bon, donc, Félix Tshisekedi et les autres, toute sa famille, et même les Kabuya, les Asselo, tout ce monde, nous étions au congrès de l'UDPS, le premier congrès de 2010. Nous avons élaboré les projets de société, le peuple d'abord.
Oui.
Laissez-moi vous en parler quelques secondes. C'est quoi le projet de société de l'UDPS? C'est une vision personnelle du président Étienne Tshisekedi Wamurumba. C'est sa vision qui est le peuple d'abord. Et le peuple, cette vision signifie quoi? Conduire le peuple congolais au bonheur intégral dans un pays, un grand pays, uni, fort et prospère, où il fait beau vivre. Donc, ça c'est la vision, c'était la vision d'Étienne Tshisekedi, qui a toujours deux stratégies.
Oui.
La première, c'est promouvoir toutes les valeurs possibles, que ce soit l'amour, la solidarité, le travail, etc. Combattre les antivaleurs en faisant la promotion des valeurs. C'était le premier volet de ces projets de société. Le deuxième volet, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui passe par la gestion du pays selon les normes démocratiquement connues partout ailleurs. Et nous avons, là-dedans, il y avait 21 propositions concrètes pour gérer ce pays. Vous savez, aucune de ces propositions, aucune de ces valeurs n'a été appliqué par son fils. Ça veut dire qu'il s'est écarté largement du programme de son père. Donc, il a fait autre chose avec ceux qu'il a choisi pour diriger le pays. Deuxième chose, lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de la campagne électorale de 2023, il a écrit un livre, Le Congo retrouvé, où les rédacteurs de ce livre ont pris l'essentiel de ce projet de société que je viens d'énumérer tout à l'heure. Moi, je pensais, et par rapport à ça, je vous dis que j'ai fait sa campagne électorale, et puis j'étais fier de voir que notre président, après 5 ans de tâtonnement, avait au moins cherché à reprendre les esprits pour appliquer la vision de son père. Mais depuis que les élections sont passées, on ne sait pas où on va, on navigue en vue, et il a même oublié ses livres, je ne sais pas même s'il l'a lu un jour. Donc, vous comprenez que c'est difficile de faire vraiment confiance à ce type de gouvernance qui nous mène tout droit au mur, et nous y sommes presque. Ça ne vaut pas la peine. Donc, je ne suis pas l'avocat de Kabila. Si le président Kabila nous tend la main en tant qu'intellectuel, expert et avec des compétences connues, parce que nous les avons démontrées autour du président Étienne Tshisekedi, s'il veut qu'avec lui nous cheminons ensemble dans une vision commune pour le redressement et l'émergence de notre pays, moi, je n'ai pas le choix que d'être avec une personne qui donne au moins un minimum d'espoir pour notre pays.
Est-ce que, comme vous dites vous-même, vous avez fait campagne pour lui aujourd'hui?
Félix Antoine Tshisekedi, oui.
Oui, mais certains diront que c'est parce que vous êtes déçu, que vous êtes passé de l'autre côté.
Non, pas du tout.
Que vous avez changé de bord.
Oui. Non. Vous savez, ça ne sert à rien. Je dirais à tous ceux qui m'écoutent, qui sont près ou proches de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui disent que ça ne sert à rien d'être heureux tout seul. Au pays maintenant, nous avons des besoins de base qui sont les plus préoccupants pour notre population. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Depuis plusieurs mois, nous qui avions l'habitude de nous laver dans des salles de bain convenables, on ne peut se laver que dans un seau. Donc on devient quoi là?
Mais lui,
pourquoi
dirait,
on n'a pas besoin de donner, on n'a pas la compétence nécessaire pour donner l'eau et l'électricité à la population? Qu'est-ce que ça coûte? Et c'est Kagame qui empêche M. Tshilombo Félix de me donner à la population de l'eau.
Lui il dira que ça ne date pas de lui.
Non, 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 mais ça s'est empiré malheureusement. Il a trouvé, oui, peut-être que ce n'était pas bien ou que ce n'était pas tout à fait convenable, mais il devait faire mieux. Quand vous prenez le pouvoir, ce n'est pas pour empirer la situation, mais c'est pour l'améliorer. Si vous n'arrivez pas à l'améliorer et que vous battez le record de créer une dette extérieure de 16 milliards, on ne sait pas où vous avez mis cet argent. Vous payez à un professeur qui, à l'époque de Kabila, un professeur associé, avait 3 100 $ de salaire par mois. Et maintenant, à l'époque de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hein, et le professeur associé n'a que 1 200 $. Donc il a régressé plus de la moitié de ce qu'il avait. Vous avez vu d'ailleurs dans les réseaux sociaux des professeurs qui mangeaient des sandwichs secs avec un morceau de sardine. Non, on a chosifié les gens. On est même plus fier de s'appeler professeur ou quoi, puisque nous ne valons plus rien dans ce pays-là.
Mais
donc, ce n'était pas ça à l'époque de Kabila. Donc, moi, je fais une comparaison. Je ne suis pas l'avocat et je ne suis pas le seul à le dire.
Mais c'est tout comme...
À l'époque, mes collègues, quand ils ont marché sur la primature, ils l'ont dit clairement. Pourquoi vous n'avez pas interrogé mes collègues professeurs? Je ne suis pas du tout aigri ou quoi que ce soit. Puisque je peux revenir en Belgique ici, travailler comme médecin, comme j'étais parmi les meilleurs néologues de Bruxelles, je peux gagner ma vie aussi. Et on me sollicite d'ailleurs, chaque fois que je pointe mon nez à Delta, Chirec Delta ou ailleurs, on me dit, mais docteur, mais vous nous avez quittés. Non, je peux travailler ici et gagner ma vie comme avant. Je n'aurais rien envié à tous ceux qui sont les nouveaux riches ou les qui ne sont autres que de couloune en cravate. Mais bon, moi je ne suis pas là. J'aime mon pays,
oui.
J'aime mon village où j'ai construit, j'ai tout fait. Donc je dois rester dans mon pays. Je ne me vois pas en exil ou quoi. Je suis rentré dans ce pays-là puisque j'aime le pays et je dois voir l'émergence de ce pays avant que je disparaisse de ce monde.
Docteur, est-ce que pour interpeller quelqu'un, je dirais un membre de la même famille, est-ce qu'il faut changer nécessairement de famille?
Oui, parce mais...
C'est ce que vous venez de faire.
Papa Jules.
Oui.
Mais je ne veux pas citer des noms des personnes.
Oui.
Ni des pasteurs qui côtoient Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Oui.
On lui a donné, moi personnellement, j'ai fait des notes qui sont passées par ses gardes-corps, ses collaborateurs proches que vous connaissez, qui étaient avec nous ici, ou par son frère, ou pas, pour améliorer certaines choses. Mais ça ne s'améliore pas. Je donne l'exemple des embouteillages. Les embouteillages à Kinshasa, il faut seulement appliquer 20 mesures. Je dis bien 20 mesures. Qui existent.
Quelles sont ces 20 mesures? Quelles sont, ne fût-ce que trois.
D'abord, ce n'est pas difficile de former une police de la route, une police de circulation. Parce que le désordre à Kinshasa, c'est la police qui provoque. Deuxième chose, deuxième solution, commencer par donner la carte d'identité aux gens qui sont là et simultanément les permis de conduire. Comme on le fait ici, quand on t'interpelle sur la route dans ta voiture, on te demande deux documents, n'est-ce pas? La carte d'identité, le permis de conduire. On n'a pas, personne n'a ça à Kinshasa. Et c'est difficile de faire ça.
Mais ils viennent troisième. De l'ordre, pour les permis de conduire.
Non, c'est le désordre. Oui. Moi, je suis allé deux fois attendre toute une journée. Et, non, des choses que vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas comprendre. C'est un désordre, c'est un fiasco, les histoires de permis. Je continue. La réglementation du code de la route qui impose certaines choses. Vous trouverez, il n'y a que dans notre pays où vous avez certains conduisent avec le volant à gauche, d'autres à droite, et ceux qui conduisent avec des volants à droite provoquent des accidents incroyables. Est-ce qu'il faut être quoi pour mettre fin à ça? Troisième chose, les histoires des plaques là, des plaques de circulation, des plaques de voiture, c'est, il y a plus de fausses plaques que de vraies. Donc, il faut identifier, réidentifier les véhicules de d'une certaine manière. Les wewa, donc les motocyclistes, c'est encore un désordre indescriptible. Pourquoi? Parce qu'on a 4 millions, par exemple, de motos à Kinshasa, et ces motos-là, l'État ne connaît rien, ne profite de rien. Et ces motos paient des taxes, ces motocyclistes paient des taxes, on ne sait pas où. Ils roulent comme ils veulent, ils viennent de leur village et ils conduisent dans la ville comme si sans permis, sans. Il y a plein de mesures que l'on peut prendre. Mais tout ça, il faut de l'autorité. Oui. Donc, moi, par exemple, avec des amis, nous avons réfléchi, nous avons donné des conseils sur ce qu'il faut faire pour, dans 3-4 mois, on mette fin aux embouteillages à Kinshasa. Maintenant, au lieu d'améliorer la situation des embouteillages des véhicules, maintenant, il y a des embouteillages des piétons. Vous savez que on ne sait pas qui vient à Kinshasa, qui habite où. Il n'y a aucun recensement, il n'y a rien. Les autorités, que ce soit de la ville ou des communes, ne se retrouvent même pas. Donc, c'est le désert total. Donc, c'est l'absence d'autorité. Absence d'autorité qui a une vision. Une autorité visionnaire qui peut dire, moi, je fais ça pour améliorer la situation. On ne voit rien venir. Donc, je ne sais pas pourquoi vous devez défendre cette situation. Mais je vous donne un exemple concret où nous avons fait des propositions de suggestions. Je peux vous en donner d'autres, même en matière de finances publiques, parce que j'ai été vice-ministre aux finances. J'avais alerté, j'ai dit, nous allons très loin, on s'endette trop. Et un jour, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, et des arrière-petits-enfants qui vont payer ces dettes. Maintenant, le ministre du budget, le vice-premier ministre du budget, dès qu'il est arrivé, il a fait l'état des lieux, il a dit, ah, nous avons 16 milliards de dettes extérieures.
Mais on parle de 20 milliards de...
De quoi?
De budget.
Non, le budget, c'est chimérique, ça. Le budget, c'est un espoir. On veut attendre, on veut tendre à ça. Mais j'ai dit, ce qui est déjà fait. Si on a un budget de 20 milliards, il faut d'abord payer la dette extérieure de 15 milliards. Il restera 5 pour la population, pour gérer le pays. C'est pratiquement insuffisant. Mais je ne vais pas aborder les problèmes des finances publiques maintenant, là, parce que je pense que vous m'avez invité pour vous faire la restitution du conclave de Nairobi. Limitons-nous à ça. Appelez-moi une autre émission, je vais vous démontrer la gouvernance chaotique de l'actuel gouvernement et de l'actuel pouvoir de Kinshasa.
Mais certains diront que le docteur Le Sequet est de mauvaise foi.
De mauvaise foi?
Le jour où on va.
Un intellectuel qui réfléchit.
Le jour où on va coucher son nom sur une ordonnance, il va rentrer dans les rangs.
Ça ne viendra pas. Je vous mets en défi. Ça ne viendra pas puisque je serai comme quelqu'un qui dérange, puisque je dirai la vérité. Et il n'y a qu'à Étienne Tshisekedi que je pouvais faire des notes ou expliquer ce genre de situation pour que ça passe. Mais l'actuel, son fils, il s'est écarté totalement de la vision de son père. Donc, vous voyez, ça devient compliqué.
Mais si en termes chronologiques, vous, vous étiez déjà parti avec Bruno Tshibala, le premier ministre Bruno Tshibala, vous les avez abandonnés.
Non, et vous voyez que vous-même, vous ne connaissez pas la chronologie des faits. Ouais. Moi, j'étais dans le gouvernement de Sami Badibang.
Ouais.
Et avant d'entrer dans ce gouvernement-là, nous avions l'obligation d'aller voir le leader Maximo, donc le président Étienne Tshisekedi, pour demander son quitus.
Est-ce qu'il avait donné?
Moi, je ne sais pas ce que...
Est-ce qu'il avait donné
laissé... Mais aujourd'hui, je ne veux pas révéler certains secrets d'État.
Mais oui, mais est-ce qu'il avait donné
son... Je peux vous dire...
Est-ce qu'il avait donné son approbation, docteur?
Je vous dis oui. Je vous dis oui. Pourquoi?
Oui.
Je risque de rentrer dans des problèmes personnels ici qui risquent de compliquer les choses. Je préfère vous dire qu'il a dit oui. Qu'il m'a dit oui.
Mais on n'a pas la...
Assumez-vous.
Ah, c'est à vous de vous assumer, parce que c'est vous qui nous donnez cette réponse-là.
Oui, maintenant, c'est, vous savez, il y a des colloques singuliers qu'on avait. C'était le chef. Moi, je pouvais difficilement le décevoir. Nous avons eu un colloque singulier avant mon entrée au gouvernement de Badibang. Nous avons discuté pendant 2 heures, de 21h à 23h, chez lui, sur la véranda, avant que je n'entre au gouvernement. Il a dit, docteur, bon, vous m'avez convaincu, il y a des choses pour lesquelles je ne peux rien faire, je comprends que d'une certaine façon, vous avez raison d'entrer, de vous assumer d'entrer dans un gouvernement, c'est... Allez-y, vous êtes resté. J'espère que vous resterez fidèle à notre idéologie commune, notre vision commune, et que je vous souhaite bonne chance. C'est tout ce qu'il m'a dit.
Mais par rapport au gouvernement de Sami Badibanga, on avait dit que celui qui était parti, c'était auto-exclu.
Non, et laissez tous ces concepts qui sont tout à fait surannés et qui n'ont pas de sens. Vous savez, un homme politique, c'est celui qui a le courage de s'assumer. Ici, j'ai agi avec la toute transparence qu'il faut. Je sais aussi que Félix Antoine Tshisekedi m'a reproché de ne l'avoir pas prévenu. Comme j'ai fait, je l'ai fait en donnant l'information à son père. Bon, s'il est rancunier, puisque je ne l'ai pas fait, puisqu'ici à Bruxelles, nous avions une proximité telle que on se disait tout. Mais cette fois-là, je ne lui ai pas dit. Vous savez que ces histoires-là, ça évolue très vite. C'est rien que c'est ma réponse à Sami Badibanga qui bloquait la sortie du gouvernement. Donc, j'étais sous pression et j'ai mis le temps de parler avec mon mentor politique qui, finalement, au bout de 2 heures, m'a dit « Mais docteur, mais nous nous connaissons depuis 1988. Je sens que vous n'êtes pas fatigué, mais il y a des impératifs là qui nous concernent tous stratégiquement. Mais bon, assumez-vous, allez-y et bon vent. » Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la situation, il va commencer à pérorer, j'ai trahi, j'ai fait ceci, j'ai ça. Malheureusement, et je regrette malheureusement, il nous a quittés rapidement après notre rencontre de décembre 2016. Moi, j'étais déjà au gouvernement. Lui, il est rentré en Belgique pour les soins médicaux. Et c'est dommage qu'il nous ait quittés aussi précocement alors qu'on avait beaucoup de choses à faire.
Donc,
je n'étais pas dans le gouvernement Tshibala. Je n'ai jamais... Et bon, Tshibala est entré au gouvernement, est devenu premier ministre, mais je n'ai jamais été ni son collaborateur, ni son ministre. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame.
D'accord.
En revanche, En revanche, c'est Tshibala qui a fait la démarche vers nous, puisque moi j'encadrais les fondateurs, les pionniers, du point de vue social et autres. Donc, pour qu'il ait le soutien de ces catégories.
Vous aviez été quand même, vous avez été en relation avec M. Bruno Tshibala quand même, par rapport
mais
à ça.
Pourquoi voulez-vous qu'on n'ait pas de relations? Vous vous en voulez à moi, mais Bruno Tshibala est de la famille Tshisekedi. Vous le savez où? Est-ce que vous le savez?
Mais ce n'est pas lui que j'ai en face, c'est vous
non.
que j'ai en face.
Non, mais vous me reprochez quoi? De fréquenter Tshibala, est-ce qu'il est pestiféré? Moi, je l'ai côtoyé. Et c'est, je dirais même, c'était un très haut cadre de notre parti. Oui, c'est le règlement ou les statuts actuels, c'est lui et d'autres avocats qui étaient l'auteur de ce statut. Et c'était vraiment nos avocats, en matière de droit et des sciences juridiques, c'était nos cerveaux à l'UDPS. Et je n'ai pas eu de contentieux.